Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est les deux compagnies au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux stratégies de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose sa première livraison du débat de cette semaine. Les participants au dialogue politique ont débattu mercredi dernier sur les différentes options pour aller aux élections en RDC. Les échanges ont porté sur les trois options permettant d'organiser les élections dans un délai raisonnable, à savoir la reprise du fichier électoral de 2011, la révision partielle du fichier électoral ou la refonte totale de ce fichier. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la CENCO estime que le principe de l'alternance démocratique et le respect des dispositions verrouillées de la Constitution devaient être plutôt au centre des débats. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Julie Pesa Bongonda est au standard, Hérité Zizarek à la mise en onde, et Pierrot et la Mégie à la réalisation de ce programme, coordonné présenté par J.R. Lungembo Luabung, Angie, sous la supervision de Julien Yamouni. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Le dialogue national s'est ouvert le 1er septembre sous l'égide d'une facilitation de l'Union africaine. Il est censé permettre à la RDC de sortir de la crise qui la ronge depuis. Ce week-end, trois commissions ont été mises en place pour discuter des questions climatiques liées aux élections, et à savoir la question sur la sécurisation de ces élections, le calendrier électoral et la confiance qui doit entourer l'organisation de ces élections. Timothée Chucha, vous êtes à Bruxelles. Vous avez raison pour ce débat. Timothée, bonjour.
Bonjour, Gilles, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est le regard que vous avez aujourd'hui en rapport avec les travaux du dialogue qui se tient donc au niveau de l'Union, du site de l'Union africaine à Kinshasa?
Un regard, Gilles, un regard d'abord négatif et puis de beaucoup de pessimisme, mais tout simplement parce qu'il faut besoin d'abord de protocole. D'abord, il n'y a pas inclusivité, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il se pose un sérieux problème des acteurs. Vous savez que le président de la République est institution et personnellement, il est plutôt personnel, comme on dit, accusé de vouloir obtenir un troisième mandat. Donc, c'est une partie intégrante au dialogue. Et donc, il doit être là, venir au dialogue, ensemble avec les débatteurs, les parties prenantes pour les débats. Et assurer l'inclusivité avec les grands ténors de l'opposition qui sont en dehors des institutions, en fait, des actifs. Vous voyez que sur le plan protocolaire, ça pose énormément de problèmes. C'est qui se débattent là-bas? Il n'y a personne qui va débattre les mandats parmi tous les membres du dialogue. Sur le président de la République, il y a, si tu veux dépasser les mandats dont on accuse, on a les preuves, il doit être là. Deuxièmement, un sérieux problème dans le financement du dialogue. On dit toujours en français, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et qui finance le dialogue? Alors, si ce sont les institutions de la République qui ont créé le retard, qui finance le dialogue, il y a un souci d'intérêt à ce moment-là. C'est de préalable, mais comme ça que le rassemblement a toujours voulu venir au dialogue, c'est rassurant que les questions seront mises sur la table pour en débattre en toute indépendance. Et nous constatons que ces deux éléments n'étant pas pris en compte, le dialogue, tous les dialogants sont pris en otage. Je reviens à votre question ou à votre analyse de tout à l'heure. Il se pose un sérieux problème de trois possibilités qu'ils ont données, parce qu'il me semble que on ne peut pas, le président de la République en fait mandat, je ne le vois pas, tenter de trouver solution, avoir des recettes pour trouver solution aux problèmes qu'il a créés depuis 5 ans, 10 ans. Voilà pourquoi nous voulons que le dialogue soit inclusif, Si nous voyons les partenaires, notamment la CENCO, la Commission de l'Union africaine, d'avant Kodjo, dont on a récusé, mais aussi nos partenaires de la communauté internationale qui soient là afin que le débat soit clair pour que nous puissions, un, débattre de la personne du chef de l'État, comment nous pouvons voir l'alternance, parce que ce sont des questions qui sont verrouillées, des travaux qui sont faits jusqu'à présent, parce qu'ils ont fait appel à Corneille Nangaa, mais Corneille Nangaa, comme vous l'avez constaté, n'a fait que relayer en quelque sorte, n'a fait qu'aller dans le sens de désidérata de la majorité présidentielle qui veulent voir Joseph Kabila aller au-delà du mandat. Il a donné 16 mois, pour lui 16 mois, et il fait fi de toutes les dispositions verrouillées de la Constitution, il oublie Corneille Nangaa. Il oublie que la Constitution que nous défendons aujourd'hui a été le consensus de plusieurs crises que nous avons connues. Il y a des milliers de morts, des millions de morts pour qu'on arrive à cette Constitution. Aujourd'hui, le président de la République arrivé en fin de mandat ne peut plus, sous quelque prétexte que ce soit, aller au-delà. Donc on ne peut pas accepter que 300 personnes à la cité de l'Union africaine.
Timothée, parce que vous évoquez le préambule de la Constitution, de notre Constitution qui proclame en fait l'unité de peuple en évoquant quelques crises que nous avons connues par le passé. La question qui me revient à l'esprit, s'agit-il d'un simple objectif ou d'une obligation de résultat? Quand on parle par exemple de mettre fin à de multiples crises que nous avons connues avant, est-ce qu'il s'agit là d'un simple objectif ou d'une obligation?
C'est une obligation constitutionnelle. Voyez comment la Constitution a fait interdit que l'on touche à ces dispositions JR. C'est-à-dire que l'élection devient le seul mode d'accession aux plus hautes charges d'État. Et que nous nous sommes convenus à Saint-Titi qu'on ne puisse plus dépasser les mandats. Le président de la République a battu un travail et nous disons il est à la fin, on n'a pas interdit à la majorité de sortir un dauphin. Et bon, moi, Joseph Kabila, j'arrive en fin de mandat, je sors mon dauphin, mais nous ne sommes plus en mesure de recouper les élections dans le délai constitutionnel. Je ne serai plus candidat, je ne veux plus aller au-delà. Faisons en sorte que dans ce dialogue, nous puissions obtenir un mandat. Vous avez reçu, vos collègues ont reçu dans l'émission Dialogue entre les Congolais des experts électoraux, la dernière fois, je crois que c'était jeudi passé, ils ont débattu sur la possibilité d'obtenir ces élections, même en janvier 2017, ici. Un délai raisonnable. La majorité.
En suivant le deux exposés, celui du président de la CENI, et également de l'OIF, on se rend compte que finalement les élections ne peuvent pas se tenir dans la logique avant, disons, le mois de mai prochain, de 2017.
Oui, d'abord par rapport à cette date, les élections peuvent se tenir dans les raisonnables avant le mois de mai. Mais il faut se rappeler aussi que la difficulté à laquelle nous traversons, ou l'impasse que connaît la Commission électorale nationale indépendante, a été savamment orchestrée. C'est pour cette raison, les mêmes responsables de la crise actuelle ne peuvent pas être eux-mêmes ceux qui peuvent trouver solution à ce problème. Voilà pourquoi nous appelons au vrai dialogue, parce que celui-là c'est un monologue, ils se parlent entre eux, mais la vérité c'est que tout le monde voudrait d'un dialogue qui définisse d'abord, un, du mandat du chef de l'État, il ne se représente plus, d'abord il n'en a pas droit, que l'on s'arrête à son mandat, et que l'on voit comment nous pouvons organiser un délai où nous aurons, même s'il y a une petite période, jusqu'au mois de mai, mais que ça ne soit plus Joseph Kabila à la tête de l'État.
Voilà, merci beaucoup Timothée, on va poursuivre nos analyses. Nous retenons d'abord, nous vous gardons en ligne, vous intervenez depuis Bruxelles, vous rejoignez donc le point de vue du communiqué de la CENCO, qui estime que le principe de l'alternance démocratique et le respect des dispositions verrouillées de la Constitution devaient être au centre des débats. Voilà donc Arsène qui nous a rejoint. Nous vous gardons d'abord en ligne, Timothée. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Arsène.
Bonjour M. Gilles et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Alors Arsène, vous venez de suivre Timothée qui a évoqué les problèmes protocolaires qui se posent à ce jour au regard de l'organisation des travaux qui se tiennent au niveau du site de l'IA à Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est vrai, le problème du financement du dialogue constitue en fait un élément pour certains pour dire que la main qui donne, c'est la main qui en fait observera ses intérêts. Est-ce que vous avez pratiquement la même inquiétude?
Merci beaucoup pour la parole, M. J.R. Je voulais qu'on puisse un peu analyser tranquillement cette histoire, parce que nous risquons de dévier de l'idéal. En tout cas, moi, personnellement, ce que je constate d'abord, c'est que ceux qui sont au pouvoir, la majorité qui dirige le pays, au lieu de gérer la population, la majorité est en train de gérer l'opposition. Et quand la majorité est en train de gérer l'opposition, on commence à fabriquer une opposition aussi de la même façon qu'on n'essaie même pas de voir quels sont les désidératas de la population. Ça, c'est la première chose. Si on voit un peu l'historique de ce dialogue, qu'est-ce qu'on veut exactement? Si je regarde un peu l'observation claire de la majorité, comment la majorité est en train d'agir, c'est que la majorité veut chercher d'abord à dévier l'article 73. Alors, en déviant l'article 73, on va chercher un prétexte. Le prétexte, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est pour donner quoi? C'est pour donner exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent eux, accord politique. Et cet accord politique, ce sera avec qui? Ça, c'est la grande question, parce que la population est en train d'attendre ses droits. Si nous allons encore plus loin, nous verrons la réaction de l'Église. La réaction de l'Église va tout droit vers l'article 220. Et dans l'article 220, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est le mandat. La seconde chose, c'est le droit de liberté du citoyen, qu'on ne peut pas toucher. Là, on ne marchera pas. Et la troisième chose, ce sont les doctrinaires. Les doctrinaires vont venir, chacun va donner sa doctrine de sa façon, mais en conclusion, c'est l'illégitimité qu'on veut rendre légitime. Et là, voyons que la représentation. Moi, je suis en train d'observer la vérité.
Oui, Arsène. Si nous lisons la déclaration de la CINCO, la déclaration faite l'année dernière, au mois de novembre, quand tu le rappelais encore aux acteurs politiques l'importance donc de la tenue de ce dialogue, il avait en fait évoqué dans ses communiqués les 10 points essentiels. Mais entre autres, il avait insisté sur ce que nous appelons aujourd'hui l'accord politique. Et c'est pas nouveau, parce que la CINCO avait déjà abordé cette question il y a une année. Et aujourd'hui, il revient encore à la charge sur la même problématique, sur l'accord politique. Mais d'aucuns disent que l'accord politique, c'est vrai, que tu dis d'ailleurs, la CENCO elle-même n'est pas non plus constitutionnelle, mais tout de même, elle relève d'une exception. Est-ce que vous pensez comme les autres?
Non, monsieur Gilles, je crois que dans l'accord politique, il y a deux choses. Mon précédent avait parlé de l'argent du financement du dialogue. Le second problème, c'est un accord. Cet accord-là qu'on est en train de chercher, c'est le voisin moyen pour ne pas toucher à la liberté et aux droits du citoyen, ne pas toucher à l'article 220. Ça, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on remarque? Mon prédécesseur a parlé du financement. Qui finance? C'est le gouvernement. Et le gouvernement ne pouvait pas financer les élections et finance un accord politique. Non, je crois qu'il faut du sérieux dans cette histoire d'accord politique. L'accord politique, c'est comment gérer le départ du président actuel. Comment on va le gérer? Il faut trouver un accord politique et suivre la Constitution. Je crois que si nous suivons la Constitution et qu'on peut mettre de l'eau dans notre vin, je crois que là, il n'y a pas de problème. Mais passer au-dessus de l'article 220 et de l'article 73, je crois que c'est allumer le feu. Le doctrinaire et le tenant de ce dialogue doivent faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va se lever pour dire « Oui, c'est moi qui ai calmé la population. Oui, c'est moi qui ai révolté la population. »
Voilà, après, je crois qu'il y a lieu quand même, nous puissions dépassionner également les débats. Vous avez évoqué trois choses que j'ai pu quand même tenir dans vos propos. Il y a la majorité qui est en train, selon vous, de fabriquer l'opposition. Et vous avez évoqué également l'historique de ce dialogue. Pour vous, vous estimez que, au fait, à ce niveau, on a l'impression que nous tendons vers
la violation de l'article 73 de la Constitution et en allant tout droit vers un accord politique qui n'est pas constitutionnel. Et là, vous rejoignez directement donc pratiquement l'esprit à la lettre de la communication de la CENCO tout dernièrement. Voilà, donc vous estimerez que ceux qui sont au niveau du dialogue, qui estiment qu'ils peuvent traiter des dossiers pour les intérêts de la nation, ils doivent le faire tout en respectant les principes de l'alternance et aussi, disons, le respect des dispositions verrouillées de la Constitution qui devrait être en principe au centre du débat. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé des Kikwit. Maître Ramazani, vous êtes à l'ICACI. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Ramazani, vous êtes avec nous? Voilà, alors on revient à vous, Timothée. Vous parlez tout à l'heure de ces problèmes protocolaires et également les problèmes de financement. Arsène vous a rejoint. Alors, comment réagissez-vous par rapport aux propos d'Arsène?
Oui, mais Arsène a parfaitement raison. Arsène a parfaitement raison parce que même si nous devons concéder au fait que nous ne pouvons plus, à cause de la turpitude de la majorité, nous ne pouvons plus organiser les élections dans le délai constitutionnel, mais nous pouvons respecter d'autres dispositions de la Constitution, notamment les mandats et les libertés. Le mandat du chef de l'État ne peut pas être dépassé, et vous l'avez remarqué, Arsène l'a martelé, nous ne pouvons pas empêcher aux Congolais de voter un nouveau chef de l'État. Bon, je reviens à ce qu'Arsène a dit tantôt pour dire que le problème, c'est que la majorité se fait fabriquer des opposants, fabriquer une classe politique. Mais nous revenons pratiquement à ce que nous avons connu à l'époque du Zaïre. Après, ben, c'était l'histoire qui a sorti un candidat et qui s'était bien mis à l'écart. Nous sommes revenus en 2006 pratiquement la même chose. Et voilà, les crises continuent. Nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait un Congolais de plus qui meurt. Parce que, tout simplement, JR, vous savez que sur les 80 millions de Congolais, nous avons la seule personne qui est interdite de se représenter à l'élection présidentielle et de garder le fauteuil au delà de son mandat de Joseph Kabila. Le président de la République peut avoir une sortie honorable. Et aujourd'hui, la majorité accepte d'abord de décrisper la situation politique. Et en fait, les poursuites judiciaires contre Katumbi et Fayoulou et les restes, l'opposition, que l'on libère les prisonniers politiques, les diomis et consorts, et que nous obtenions la liberté de la presse, nous viendrons au dialogue.
Alors, Timothée,
dans ce dialogue,
voilà, alors,
nous parlerons du chef de l'État.
Oui, alors Timothée, c'est vrai,
nous allons tenir une période de transition sans vous,
oui,
afin que nous puissions réparer ce que vous avez commis comme faute.
Voilà, alors,
on peut avoir un confinement et la personne qui a brûlé la maison, et je suis celle qui vient comme son père.
Voilà, je crois que bon, on ne sait pas si réellement il y a quelqu'un qui a brûlé la maison, mais on va faire le débat quand même sur le plan thématique. Timothée, vous êtes chercheur depuis Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu la crise politique actuelle? Est-elle différente et très importante par rapport aux crises que nous avons connues dans ce pays avant, sur le plan politique?
Oui. Elle a les étincelles parce que n'oubliez pas qu'actuellement, dans notre pays, nous avons tous les rebelles de pratiquement tous les pays voisins. Et nous avons pratiquement plus de 600 000 réfugiés dont nous ne contrôlons pas d'autres. Et vous savez qu'il y a des parties de territoire national que nous ne savons pas contrôler. Les Mbororo, il n'y a personne qui les contrôle. Vous voyez la crise au Soudan du Sud, au Soudan du Sud a déversé chez nous encore de militaires armés. Vous avez les premiers problèmes de FDLR qui ne finit pas avec les groupuscules. Nous avons plus de 150 groupes rebelles. Vous avez appris les communiqués du M23 qui ne prendra pas en compte les résultats du dialogue. Donc nous avons comme ça, à Kasumbalesa, vous avez vu dernièrement, il y a 48 heures, il y a eu des problèmes. Donc, nous avons aujourd'hui la vie de l'État congolais et du Congo comme nation est menacée. Elle est menacée tout simplement parce que une majorité veut garder le pouvoir en violation de la Constitution. Donc le problème est plus grave même si à l'époque...
Oui, mais parce que le dialogue n'est pas encore arrivé à sa fin, pourquoi devons-nous continuer à prêter des intentions? Parce qu'il y a l'opposition qui est là-dedans, il y a la majorité, je crois qu'il va de l'intérêt des opposants qui sont très proches, qui se trouvent à l'intérieur de prouver la maturité de l'opposition aussi, de débattre des questions de fond. Parce que là, on a compris qu'il faut maintenant un accord, parce que la feuille de route, tout le monde est d'accord qu'il faut un accord politique.
Oui, JR, mais ces opposants que vous dites qui sont dans le dialogue, ont-ils posé la question de qui finance? Est-ce que ces opposants ont posé la question où est-ce que se trouve le chef de l'État, la personne au centre du débat? Est-ce que ces opposants ont posé la question de savoir pourquoi les médias du Katanga sont fermés et que Moïse Katumbi, dont les procès sont montés de toutes pièces et en dehors du pays, tu sais qu'il est en dehors de l'institution, que Mouyabo et les consorts sont toujours en prison? Est-ce qu'ils ont obtenu le préalable du rassemblement de l'opposition? Est-ce qu'ils se sont rassurés que la période dont Nanga parle de 16 mois, ils se sont rassurés que ce ne sera pas Kabila qui sera la tête de l'État? C'est pour ça qu'Afen a fait qu'il a parlé d'un pouvoir qui veut fabriquer une opposition.
Voilà.
C'est cela qu'il s'agit.
Oui,
c'est des gens qui sont en mission.
D'autant qu'il s'agit. C'est un point de vue d'Afen. C'est discutable parce que d'autres diront ce sont quand même des opposants, pas les moindres. Il n'y a pas à négliger parce que c'est des opposants que nous avons connus, qui ont mené quand même la lutte en 2011. Et parce que faire des débats sur des personnes, je crois que ça va quand même réduire les débats que nous sommes en train de faire en ce moment. Merci beaucoup. Et puis, nous vous gardons toujours en ligne depuis Bruxelles. Madame Marie-Cécile de Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, quel est votre avis, Marie-Cécile?
Oui, monsieur le journaliste, nous sommes tous en train de suivre l'évolution politique dans notre pays. Ce qui se passe pour le moment, c'est vraiment se moquer de tout un peuple. Mais quand on a commencé de parler dialogue, pour une fois, je vais plus me concentrer sur l'UDPS, par exemple. Pour une fois, que l'UDPS accepte, puisque elle a toujours été accusée de ne pas accepter quoi que ce soit dans ce pays. L'UDPS, par son chef, le président Tshisekedi, accepte d'aller au dialogue. Et on refuse, on dit non, ça doit être inclusif. Parce qu'il y a une partie de l'opposition qui n'en voulait pas. Et Tshisekedi surprend tout le monde en réunissant tout ce qui s'est dit opposant dans ce pays, et bien de ce pays, à Genève, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui rassemblement, une opposition commune, et qui accepte d'aller au dialogue. C'est alors qu'on va dire encore non, il y a encore des gens qui restent, on cherche toujours des motifs, des raisons pour ne pas y aller. Et tu sais que j'accepte, dit, on va y aller. Maintenant, on invente des motifs, on refuse de répondre seulement aux revendications tout à fait normales et logiques d'une opposition, de la vraie opposition. On refuse de répondre et on va créer maintenant une autre opposition qui est essentiellement composée de gens qui ont eu des problèmes avec l'UDPS. Regardez au sein de ce que vous appelez dialogue là, ceux qui y sont, qui étaient de l'UDPS ou qui ont trahi l'UDPS, ce sont ces personnes-là que Eden Kodjo a ramassé pour en faire l'opposition qui est en train de saisir. Moi, je n'appelle ça ni dialogue, ni quoi que ce soit, ce n'est qu'une autre trahison pour le pays. Il faut qu'on mette fin à cette messe noire.
Oui, mais je crois que Madame Marie-Cécile, je crois qu'on vous concède tout ce que vous dites, mais au-delà de cela, pensez-vous que le dialogue aujourd'hui serait dialogue, selon vous, si jamais, d'un côté, il y avait Kabila, Joseph, le chef de l'État, et de l'autre côté, Tshisekedi, de l'UDPS? Donc, tout doit s'arrêter que sur les deux personnes, donc la crise ne concerne que les deux, vous pensez vraiment?
Mais oui, il n'y a vu que ça. Parce qu'il y a un qui a usurpé le pouvoir de l'autre. Tout c'est autour de ces deux personnes-là. Mais comme on a voulu qu'on élargisse ça à tout le monde, c'est comme ça qu'il y a eu Genève, rassemblement. ce que je devais être dans la tête avec tous les membres du rassemblement et M. Kabila avec tous ceux qui lui sont fidèles. Mais ce n'est pas ce qui se fait maintenant. N'appelons même pas ça Diallo.
Bon, alors si nous pouvons quand même en tant que Congolais, voilà, on comprend votre inquiétude.
Oui,
on comprend largement votre souci, Madame Marie Cécile, mais en tant que Congolais, quel regard avez-vous aujourd'hui avec les trois sous-commissions ou les trois commissions thématiques qui ont été mises en place pour poursuivre les travaux du dialogue? En ce qui concerne la question relative aux élections, par exemple, sa sécurisation, la confiance qui doit entourer les élections qui seront organisées dans les jours à venir, et aussi le calendrier qui doit sortir des communs d'accord.
Mais monsieur le journaliste, c'est là que vous me poussez à répondre à ce que je vous dis que je n'ai même pas un dialogue. Donc, au niveau même de la forme, j'ai réussi la forme. Pourquoi vous me demandez de traiter du fond?
Mais parce que vous êtes congolaise, madame.
Oui. On est déjà mal parti. Tout ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est un complot.
Oui, mais madame en tant que congolaise. Oui, voilà, merci beaucoup. Merci, madame Marie-Cécile. On va prendre Amos de Bukavu. Marie, Amos, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les peuples congolais. Bonjour à tout le monde qui aime la paix au Congo. Au fait, je suis en train de suivre avec beaucoup d'intérêt tout le monde qui est intervenu par rapport au dialogue en cours, mais aussi par rapport à la situation qui prévoit actuellement dans notre pays. Je veux d'abord dire à certains de mes prédécesseurs que nous devons dépasser nos égos, nous devons dépasser nos sentiments et voir d'abord la patrie en danger. Nous devons mettre la RDC au centre. Parce que je viens de suivre certains de mes prédécesseurs qui sont en train de vouloir personnaliser les débats. Ils viennent montrer que non, ce qui se fait à la cité africaine, c'est-à-dire que c'est une distraction. Nous sommes en train de dire que ceux-là qui ont refusé d'aller au dialogue, jusque-là, ne font pas les condamner. Et ceux qui ont accepté d'aller au dialogue ne font pas les condamner. Nous attendons les résultats de ces dialogues. Parce que ceux qui ont refusé, ce sont eux d'ailleurs qui ont occasionné que nous soyons dans ce chemin du dialogue. Si du moins tout le monde devait refuser le dialogue, la majorité présidentielle ne devait pas nous imposer le dialogue qui était jadis un schéma ou une stratégie de vouloir permettre à la majorité de rester aux affaires. Mais l'IDP continue toujours à insister que sans dialogue, on ne peut pas résoudre la situation qui était déjà au pays. Et finalement, il y a d'autres partis qui refusaient, qui ont finalement accepté qu'il fallait qu'on aille au dialogue. Mais d'emblée, quand ils ont accepté d'aller au dialogue, on a vu les rassemblements refuser de ne plus aller au dialogue. Et justement, on a donné le préalable, que tout le monde ne peut pas nier. Mais il y a des préalables qu'on ne devait plus exiger. Par exemple, le fait de récuser les coachs, les facilitateurs. Parce que si du moins les rassemblements devaient continuer à insister qu'on récuse les coachs, on sait la situation au Congo, il fallait encore pour qu'on ait un autre facilitateur qui sera accepté par toutes les parties concernées. Cela ne devait pas prendre moins de 5 mois. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce que réellement les rassemblements étaient en train de tenir compte du délai constitutionnel? Parce qu'il fallait aussi que ce dialogue se termine avant la convocation du corps électoral, que tout le monde attend les 19 de ces mois. Mais on a compris qu'avec le schéma du rassemblement, il était le prix du délai constitutionnel. D'aider par rapport aux trois objectifs qui ont été levés pour ce qui est des élections. Nous disons, nous devons accepter toute option qui nous amène aux élections dans les délais constitutionnels, en fait que le président en place, qui a créé lui-même cet espace avec sa majorité, puisse quitter le pouvoir au plus tard le 19 décembre. Toute autre option qu'on peut envisager aujourd'hui, qui permet à l'actuel président d'avoir même une seconde au-delà du mandat lui reconnu par la Constitution, vraiment le peuple congolais ne va pas accepter. Et c'est là que nous devons continuer à demander au peuple congolais de rester aux aguets, que ce soit ceux-là qui sont allés au dialogue, que ce soit ceux-là qui continuent à réclamer ce dialogue jusque-là. Le peuple congolais ne va pas accepter qu'on complote contre la patrie et qu'on permette à l'actuel pouvoir d'être au pouvoir au-delà du 19 décembre. C'est du moins compte tenu du temps qui nous reste. Tout le monde sent que les élections ne sont plus possibles dans les délais qui restent. Mais d'abord, que ceux-là qui ont causé que cette situation soit ici soient conscients et soient confiants de la situation qu'ils ont créée au pays. C'est là que nous disons, s'il y aura un petit temps qu'on va ajouter pour que cela nous permette d'avoir des élections, que l'actuel président ne soit plus bénéficiaire du moment qu'on peut accorder à la CENI pour qu'elle nous organise les élections que tout le monde attend. Et qu'on cherche quelqu'un de la société civile qui va maintenant prendre la place du président actuel, qui lui-même avait créé cette place pour que nous ayons les élections.
Oui, mais je crois que dans un raisonnement le plus simple, disons, on sera renvoyé à penser directement à cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait déjà résolu la question ou avait déjà donné une réponse à toutes les préoccupations. Je crois qu'aujourd'hui, l'extension de délai qu'on pourrait accorder à la CENI pour organiser les élections, je crois que ça doit tenir compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour dire que les institutions qui sont là restent en place jusqu'à l'organisation des élections. Donc on ne peut pas changer.
Ça, c'est la Cour constitutionnelle qui l'a dit. Nous savons que cette Cour constitutionnelle est jusque-là instrumentalisée par le pouvoir en place. Elle est manipulée par le pouvoir en place. Nous disons comme la constitution est claire. Et on a dit qu'à 3 mois, c'est-à-dire à 90 jours avant la fin du mandat du président en place, la CENI doit convoquer le corps électoral. Nous voyons que cela risque de ne pas être possible. Mais nous disons, la majorité avait préparé tout ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, il y a des directs. Et quand ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme en leur disant, il faut nous organiser les élections dans les délais. Ils nous disaient non, c'est un procès de tension. Aujourd'hui, la réalité vient de se faire voir. Et c'est là que nous disons, le président qui a été à la tête de tout ce que nous voyons aujourd'hui avec sa majorité au pouvoir, il doit être sanctionné. C'est pourquoi nous disons...
Voilà, je crois que le débat, il y a un débat franc qui s'est fait au niveau de ces dialogues, au niveau de ces travaux. À chaque fois, d'ailleurs, nous saluons d'ailleurs en passant l'initiative des organisateurs de ces dialogues. À chaque fois, communiquer avec la presse pour fixer sur certains points qui, en fait, suscitent des débats ou encore des passions au niveau de la population. Entre autres, la question que vient de soulever tout à l'heure la CENCO dans sa communication qui estime que le principe de l'alternance démocratique et le respect des dispositions verrouillées de la Constitution devraient être au centre du débat, aux côtés des débats qui ont été déjà organisés en ce qui concerne le processus électoral avec les trois commissions qui ont été mises en place. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé de Bukavu. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et merci de nous avoir rejoints.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bon retour en République démocratique du Congo sans démocratie.
Merci beaucoup Félicien. Vous avez suivi vos prédécesseurs, il y a Timothée, également Axel et aussi Madame Cécile. À la fin d'ailleurs, il y avait Amos qui est intervenu tout à l'heure. Quel est votre avis par rapport aux préoccupations des uns et des autres? Vous venez de suivre d'ailleurs Timothée qui a parlé des problèmes protocolaires aujourd'hui qui se posent là-bas. Il y a Marie-Cécile qui dit, bon, pour elle, elle ne veut même pas faire trop de commentaires par rapport à ces dialogues parce qu'elle trouve déjà qu'elle était déjà biaisée. Amos qui insiste qu'il y a quand même une certaine liberté dans le choix de ceux qui ont décidé d'aller, mais il plaide aussi pour l'inclusivité de ces dialogues, mais tout en respectant aussi la position des uns et des autres. Quel est votre avis, Félicien?
Oui, moi, ce qui me choque, c'est le degré de médiocrité de la classe politique congolaise. Je ne peux pas comprendre que les gens peuvent, à cause de leurs intérêts personnels, à cause de leur ventre, mettre en danger tout un peuple et saboter le destin de tout un peuple. Je ne sais pas ces gens qui sont au cancer de là-bas, ce qu'ils sont partis faire. Et quand vous voyez d'abord comment on les a sélectionnés, vous pouvez pas comprendre qu'il puisse sortir quelque chose de bien là-bas.
Oui, mais Félicien, si on peut évoluer quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le dialogue se tient. Nous observons de l'extérieur. Et quelle est la lecture que vous avez à ce jour? Le week-end, il n'y avait pas plénière. Il y a eu trois commissions qui ont été mises en place pour traiter cette question d'élection. Vous avez quand même une lecture particulière à faire par rapport à ça?
Monsieur Nanga qui vient là-bas pour donner trois propositions et on doit choisir parmi les trois propositions laquelle on doit prendre pour les élections. Mais M. Nanga devait d'abord nous dire, il nous a escroqué l'argent en 2015 au mois de mai pour les élections provinciales. C'était avec quel fichier on devait faire ces élections-là?
ce qui a seulement été corrompu, mais il est devenu après. Parce que des gens ont dépensé l'argent pour aller aux élections provinciales. Et on ne parlait pas à ce moment-là de fichiers.
Alors, je crois qu'un carré-pénicien, c'est quand même fort, hein, quand vous parlez de troquer, hein, à la place, peut-être, moi, j'utiliserais un autre mot, hein, parce que troquer, c'est quand même une institution publique, et qui appuie à la démocratie, qui organise des élections à ces niveaux. Je crois que voilà, tout le monde, les partis politiques qui ont accédé à cette démarche de vouloir proposer des candidats, ils ont payé la caution. Je crois qu'à un moment voulu, quand il y aura le bilan à faire, je crois que la CENI pourrait faire le bilan pour éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à cette question. Mais parler de l'escroquerie, vous n'estimez pas que c'est quand même fort?
C'est moi que vous pouvez remplacer, mais moi j'ai dit, on a payé cette caution-là pour aller aux élections et pas attendre le dialogue pour ces élections. Mais la question la plus importante, c'est avec quel fichier on devait aller à ces élections. Était-il corrompu ou bien il est corrompu après qu'on ait eu la caution des gens qui voulaient aller aux élections. Moi je pense que aujourd'hui, si les gens devaient se réunir, c'est pour, comme l'a dit beaucoup de compatriotes avant moi, pour voir l'après 20 décembre qui doit conduire la transition, s'il doit y avoir une transition, parce que on a tout fait pour que les élections n'aient pas lieu dans les délais. Et ces gens-là, ils parlaient de l'accord cadre. Et plutôt de la résolution 2277. Mais la résolution 2277 leur demande de respecter la Constitution, de faire des élections dans les délais. Mais là, ils vont là-bas, ils commencent à parler d'autres choses. Mais alors, on ne sait pas. Ils sont partis parler de comment les élections seront paisibles. Les élections, ce qui seront paisibles, quelles élections et à quelle date ça va se tenir. Moi, je pense que la majorité a eu le temps de donner la joie au peuple congolais. S'il l'a fait, gloire à Dieu, le peuple peut l'applaudir. S'il ne l'a pas fait, ils doivent se taire et ils ne peuvent pas être en train de mener encore la barque aujourd'hui. C'est eux qui sont encore là en train de mener la barque parce que le but du pouvoir, c'est de servir le peuple. Or, aujourd'hui, le peuple congolais, son espoir était resté seulement l'alternance. Son espoir était resté seulement que les choses changent, peut-être qu'ils pourront respirer. Ils ne sont pas prêts à accepter de voir encore ces gens-là en train de les maltraiter comme ils le font. Et ça, nous le sentons dans le milieu où nous vivons, nous en tant que leaders d'opinion, et personne ne peut vous tromper, nous risquons nous-mêmes de mettre ce pays assez à temps. Alors voilà. On sera en train de prendre.
Voilà, si qu'on n'arrive pas là, voilà pourquoi on appelle tout le monde à dialoguer, voilà pourquoi on insiste sur ce dialogue inclusif et la démarche que vous avez suivie d'ailleurs les uns les autres, qui sont pro-dialogue, qui veulent à tout prix que ceux qui ne partagent pas leur point de vue puissent adhérer aussi à cet esprit d'aller pour chercher à organiser des élections apaisées. Merci beaucoup, Gilles. Vous êtes à Songololo. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est votre avis, Gilles?
Bien, merci beaucoup. Moi, je dirais ceci. Chaque fois, je l'ai dit, dans notre pays, nous n'avons pas la culture de respecter les textes. La foi du vote de crise qu'on déplore aujourd'hui est venue d'où? Quelle est la cause majeure de cette crise? C'est le non-respect des textes. C'est le manque du sérieux de ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, je me demande, il y a un dialogue. Parce que la crise qui est aujourd'hui a été bien fabriquée, bien montée, bien organisée, de toutes pièces. Mais là, il y a dialogue. Mais là, je me demande, le fait que nous n'avons pas la culture de respecter les textes, dans ce dialogue-là, il y aura des résolutions qui sortiront là-bas. Alors je me demande, qui vont le respecter? C'est ça le problème. On peut organiser plusieurs dialogues, mais le respect des textes. Je vous donne un exemple. Dernièrement, il y avait la consultation nationale. Où sont passées toutes ces résolutions? Je vous donne encore un exemple. Dans notre Parlement, on vote des lois à tout moment. Est-ce que toutes les lois qu'on vote là-bas sont respectées? Il y a des lois qui sont en train de ronfler calmement dans les tiroirs. Il y a des lois qui sont jetées dans les oubliettes, envahies par les cadres là, ensevelies par les portes d'araignée. C'est-à-dire, dans notre pays, nous devons respecter les textes pour que nous soyons sérieux.
Voilà, alors Gilles, c'est pourquoi il y a dans les cadres des bons offices contre la CENCO à ce dialogue. Il a été dit dans un des communiqués rendus publics la semaine dernière, disons que les principes de l'alternance démocratique et le respect des dispositions verrouillées de la Constitution devaient être au centre des débats. Ça, c'est ce qu'estime la CENCO. Est-ce que vous pensez que c'est légitime, c'est légal, c'est aussi dans la bonne voie, telle proposition de la CENCO?
Vous allez faire. Les choses sont faciles. Respectons nos textes que nous rédigeons nous-mêmes. Pourquoi nous avons du mal à respecter les textes que nous rédigeons nous-mêmes? C'est comme ça que nous ne sommes pas respectés sur les plans internationaux. Parce que nous n'arrivons pas à respecter les textes que nous rédigeons nous-mêmes. Mais dans ce dialogue-là, il y aura des résolutions qui vont sortir là-bas. Et qui vont les respecter? Il y aura des cacophonies qui vont réunir, voilà, il y aura tous des prétextes. Non, ce n'est pas sérieux. Soyons sérieux.
Merci beaucoup, Gilles, d'avoir appelé de Songololo 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec le reporter de Radio Capi.
Timothée, c'est ça, vous êtes chercheur depuis Bruxelles, vous intervenez dans cette émission. Vous venez de suivre la série des auditeurs par rapport à cette question. D'aucuns estiment comme la CENCO que les principes de l'alternance démocratique et le respect des dispositions verrouillées de la Constitution devaient être au centre des débats. Mais il y a également des inquiétudes qui ont pratiquement rejoint vos propos de tout à l'heure lorsqu'on parle de problèmes protocolaires qui se posent déjà et la question relative au financement de ces dialogues. Vous avez des inquiétudes et des doutes pour dire quoi? Que c'est lui qui finance? C'est celui-là qui peut avoir, au fait, le pouvoir de pouvoir orienter même les débats à l'interne. Arsène qui a insisté sur également l'historique de ces dialogues. Pour lui, il estime que, voilà, tout est déjà biaisé. Le fait que l'accord qui en sortira ne pourrait pas satisfaire les uns et les autres. Marie et Cécile qui ne qualifient même pas ça d'un dialogue. Mais voilà, il y a Amos qui appelle au calme pratiquement à tout le monde, qui demande à ce que qu'on laisse quand même le temps à ces dialogues de se tenir et que au niveau des résolutions, qu'il y ait quand même des garanties que finalement tout sera respecté. Et là, ça nous renvoie d'ailleurs à l'idée de la CENCO qui insiste sur les recommandations qui doivent être exécutées ou encore la communauté internationale qui doit veiller à l'application de ces résolutions qui sortiront des dialogues. Et comment commentez-vous cela?
Oui, JR, je suis content que tous les intervenants, si vous faites le sondage ou même la proportion, vous trouverez que tout le monde est sceptique, tout le monde est même réserve par rapport aux assises africaines. Mais je voudrais d'entrer déjà avant de me résumer. Je voudrais vous dire, JR, qu'en science politique, on dit, il y a un principe, d'ailleurs, bien que les gens ne le disent pas assez, il y a un principe qui est en train de s'étudier en sciences politiques qui dit que les institutions n'accomplissent pas en elles-mêmes les miracles. Ce sont des hommes qui sont appelés à les conduire et à les animer. Donc, au moment où il faut demander la responsabilité, exemple, de la police ou des radios CAPI, ce sont des personnes physiques comme JR, comme inspecteur de la police, qui répondent. Parce que vous ne voyez pas une institution poser un problème. Et pour cette raison, il nous arrive, quand il faut parler de l'opposition, de parler des personnes intuito personae. Quand on parle du président de la République, de la présidence de la République, il nous arrive de parler de la personne du chef de l'État. Parce que c'est la personne civile qui conduit, qui a la signature de l'institution. Je crois que je m'étais fait clair dans ce sujet, lorsque j'évoque le nom d'une personne, ce n'est pas vraiment une question personnelle, mais c'est par rapport aux responsabilités à ses charges publiques. Voilà. Je reviens à mon résumé, c'est pour vous dire. Si vous comparez le communiqué de la CENCO avec toutes les interventions, par rapport au travail qui se fait à ces assises africaines, c'est que le problème n'est pas abordé là-bas, à la République africaine. On ne parlait pas du tout de la Constitution. On ne parlait pas du tout de l'alternance démocratique. On ne parlait pas du tout du mandat du délai de la Constitution, du président de la République. Là-bas, on parle de la sécurisation. Et si je vous pose la question, mais c'est vous qui la posez, c'est qui peut sécuriser le processus électoral? Et nous disons, c'est la police. C'est l'armée, là où la police n'est pas déployée. C'est les observateurs. Cette question pouvait être réglée au niveau de la série. Je suis content de l'intervention de mon dernier compatriote qui a dit, mais les textes, qu'est-ce qu'on en fait? Si, JR, si on ne fait pas respecter la Constitution, qui est le contrat social, dis-moi de quelle valeur et qui va respecter les résolutions qui sortiront du dialogue. Mon compatriote a rappelé les assises qui ont fait le bruit, les assises de budgétivore de concertation nationale, mais où sont les recommandations? Il a parlé des lois de la République, qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, les contrôles parlementaires et les députés font, et ceux qui en font respect, les négociations chaque jour. Donc nous sommes dans une République telle que, je ne peux pas la qualifier de bananière, parce que je suis membre des citoyens congolais, je suis confiant en la maturité des peuples congolais qui sincèrement, parce que vous savez que l'article 64 de la Constitution, il n'y a aucune loi du pays qui a explicité de comment ça peut se passer qu'un groupe d'individus fasse échec à un pouvoir. Je crois que c'est le peuple mature qui va prendre ses responsabilités. Mais avant que le peuple ne prenne ses responsabilités, mais je crois aussi à la personne du chef d'État comme individu, comme citoyen. Il peut revenir à la raison. Il prendre un jour son véhicule et aller à l'IMT, rencontrer le patriarche chrétien qui s'était dit, échanger avec lui. Et les deux personnes clés de cette République, quand ils voient pas la face, j'ai vu qu'on a suspendu pour 48 heures, il y a un leader de l'opposition, parce que vous n'aimez pas qu'on cite des noms, qui a demandé qu'on suspende quelques minutes, 48 heures les travaux, qu'il puisse consulter la classe politique et qu'il tente de ramener. Quels ont été les résultats? L'histoire politique de ce pays classe chaque acteur politique dans son temps et dans son espace. Et tiens, si ce qu'elle dit, Wamu Lumba est au centre du débat. Sauf Kabila Kabangé est au centre du débat.
Voilà, alors Timothée,
tout ce qui soit à la culture de l'Union africaine ne servira à rien du tout.
Alors Timothée, il y a. Oui, Timothée, il y a quand même une préoccupation qui demeure encore. Je crois que ça nécessite quand même des éclairages hein, de votre part également. Aujourd'hui, c'est vrai, en face politique, vous avez évoqué quelques principes. Un accord politique, nous devons quand même retenir la face politique, c'est une exception pour résoudre une crise politique.
Oui, mais l'accord politique, oui, je sais que l'accord politique peut tout résoudre, mais c'est pour ça. Les personnes qui sont là-bas ne trouveront pas solution à quoi qu'ils font. Franchement, je mets ma main à couper. Si, par humilité, je veux saluer la fête qu'il a fait en 2011, je crois, 2006 et 2006, quand il a été élu, il est allé voir Jean-Pierre Bemba, le ciel n'est pas tombé. C'est les conseils du chef de l'État, c'est Ben Kondjo, c'est les ambassades à Kinshasa. Quand le président de la République disait du bon sens, je prends son véhicule avec les journalistes, il arrive avec vous à l'IMT, il rencontre son père, son patriarche, monsieur le président, si c'était dit, parce qu'il a, je suis en plein mandat, je ne me présente pas, organisez-vous pour que nous puissions vivre avant un seul héritage. Nous avons besoin du président Kabila après la présidence de la République, comme sénateur. Elle fait postuler la chose unique comme secrétaire général de la chose unique. C'est l'Union africaine.
Voilà, alors révélons un peu à la position de la CENCO. Vous estimez que si jamais le débat tourne autour de l'alternance démocratique et le respect des dispositions verrouillées et de la Constitution, ces dialogues verraient à la réussite.
Oui, l'alternance, nous n'allons pas accepter que ce principe soit violé. Nous allons nous en tenir et nous allons veiller. Nous voudrions que le mouvement de l'espace politique, comme nous l'avons dit, que l'on fasse des poursuites judiciaires et que la véritable opposition fasse son entrée. Et une fois à l'intérieur, nous discuterons d'abord, un, du financement, de deux, de la sortie honorable du président de la République. Et ensuite, nous pourrions traiter d'un accord politique qui va parler d'une petite période de transition sans Joseph Kabila à la tête de l'État.
Voilà. Alors, Timothée, on va revenir à vous pour conclure cette émission. Maître Sonville, vous êtes à Kouchi et Tshombo à Lubumbashi. Maître Sonville, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, je suis avec vous, Monsieur Gier. Bonjour à l'invité. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Kapi.
Quel est votre avis?
Et par rapport à ce que m'a dit M. Georges, je dirais que l'Église catholique a totalement raison, puisque depuis le début de ses assises, on ne parle pas de l'alternance. Par contre, tout le monde vise les accords politiques. C'est déjà biaisé. C'est ça, dialogue que moi j'appelle monologue. Puisque pour votre gouvernement, M. Georges, sachez qu'il y a des polarisations dans la politique au Congo. Ceux-là qui se retrouvent au niveau de l'OIA, c'est la majorité présidentielle. Et ceux-là qui sont en dehors, c'est ça la vraie opposition. Et pour pallier à cette situation, il faudrait qu'on mette maintenant les deux feuilles de route. Une feuille de route qui a été déposée par le Rassemblement, on oppose à la feuille de route qui sortira, aux résolutions qui sortiront de ce conclave de la majorité présidentielle, à ce moment-là, on peut trouver quelque chose. Mais le nez du problème, c'est quoi? C'est le chef de l'État, à la personne de M. Joseph Kabila. Moi, je dirais ceci. La solution, c'est sa démission, puisqu'il n'a pas su organiser les élections dans le temps réel, dans le temps prévu par la Constitution. Et je dirais que s'il démissionnait, sa grandeur ne sera que renforcée s'il faisait aussi lui-même respecter et appliquer la Constitution. Vous comprendrez avec moi, M. Pierrot. Vous organisez un dialogue plus équivalent au moment où les fonctions de l'État sont très mal payées, les enseignants très mal payés, les policiers n'en parlent même pas. Vous organisez une assise là où tu budgétivores avec 10 millions de dollars américains. Pour faire quoi? Moi, je dirais ceci, M. Chier. Qu'on donne, qu'on ne puisse pas tromper la population, qu'on ne puisse pas détruire la population. Puisque nous connaissons, nous tous, la conclusion de ces travaux. M. Nang a déjà commencé l'enrôlement au niveau de nos rebondis.
Et quelle est votre lecture par rapport à la position de la CELCO?
La position a totalement raison. On ne parle pas de l'alternance. Moi, d'ailleurs, moi, je peux même persuader ma CELCO de claquer même la porte de ces assises qui font de jeter les fraudes à la vie démocratique du Congo.
Voilà. Alors, M. Sauville, je crois que vous avez évoqué une question sur l'après qui est opposant et qui ne l'est pas. Bon, je crois que, parole aux auditeurs, ce n'est pas le cadre pour faire un jugement de valeur. Nous n'avons pas ces monopoles de pouvoir juger les uns et les autres, mais toujours est-il que le souci aujourd'hui, c'est lorsque les pro-dialogues sont là-dedans, c'est aux uns et aux autres d'attendre peut-être les résultats qui en sortiront pour finalement juger le travail qui a été fait par les uns et les autres. Voilà, pour l'instant, le fait que les travaux se poursuivent, nous n'avons pas à dire. C'est vrai, nous n'avons pas ce droit d'être pessimistes à fond, d'autant plus qu'il y a quand même la présomption de pouvoir manifester cette volonté d'aller vers des élections apaisées, comme le souhaitent les uns et les autres. Merci beaucoup, Maître Convide, d'avoir appelé de Lubumbashi. Chombo, vous êtes à Bouya, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Quel est votre avis, M. Chombo?
Puis, messager, mon avis, donc, ma préoccupation est par rapport à la déclaration de la radio Seco. La Seco a pleinement raison. Parce qu'on doit nécessairement rappeler à la majorité que non, en tout cas, le 19 décembre, c'est la fin de l'ère rapide. Nous avons trop souffert, nous, les conseils, nous ne pouvons pas souffrir.
Oui, on vous écoute difficilement parce que vous avez des problèmes avec votre téléphone, j'imagine. Et également autour de vous, peut-être il y a un poste récepteur, mais notez que la déclaration de la CELCO n'a pas été faite uniquement pour la majorité, mais pour tous les participants au dialogue. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il fallait quand même apporter cette précision.
Oui, c'est ça, donc affirmativement, Pierrot. Parce que vous savez que je suis vraiment extraordinaire, c'est bien net, hein. Vous savez que dans la majorité, il y a même des juristes. Mais les juristes se sont permis maintenant à dire que dans le contexte actuel de notre pays, la politique doit surpasser les droits. Ça fait mal, vraiment, ça fait mal. Pourquoi on fait les droits en RDC? Donc on doit à tout moment marginaliser donc les textes juridiques. Ça fait mal, vraiment, Pierrot. Le problème, je reviens sur une revendication par rapport à notre compatriote Conné Nanga. Moi, je suis de Haute-Ouélé, je vous dis, M. Pierrot, on n'a pas vécu dans notre province un fils de province comme M. Nanga. Nanga a vendu à quel prix la
forêt. Voilà. Mais c'est Chombo, je crois que nous l'avions dit en début de cette émission, on va éviter de personnaliser quand même les débats au niveau du dialogue, se situe à ce jour sur les questions des élections. La, voilà, il est quand même intérêt pour nous hein, de faire les débats sur les commissions qui ont été mises en place. C'est dommage que vous avez parlé de fils de terroir, qui est d'ailleurs de reste de votre contrée. Merci beaucoup. Je crois que c'est à ce niveau que nous allons accorder également la parole à Bintou qui est à Kinshasa. Bintou, on va rester quand même dans la thématique pour voir la conclusion. Après avoir écouté les uns les autres, quel est l'élément nouveau que vous voulez ajouter, Bintou?
Merci beaucoup, JR, et bon retour sur les antennes, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Merci beaucoup, Bintou. Vous avez suivi les uns les autres. Et pour vous, quel est le regard que vous avez par rapport à la déclaration de la CELCO?
Merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de prendre d'abord la première proposition qui semble être bonne pour moi. C'est celle qui doit respecter la Constitution, c'est-à-dire ou qui doit permettre à ce que les élections aient lieu le 20 décembre. Et que ces élections-là se tiennent au courant de cette année et pas que c'est celle qui doit aller ailleurs. Et quelques éléments qu'il faut ajouter. La CELCO a raison de dire qu'il faut qu'on se base strictement sur l'alternance. C'est ce qui nous importe, c'est ce qui importe à la population. Les élections qui se tiendront après 20 décembre 2016 ne nous concernent pas et ne vont pas satisfaire la population congolaise, puisque nous nous attendons à ce que le président Kabila il réunit les conditions d'être un ex-vice-président, un ex-président et vivant au pays, et qui peut aussi apporter des conseils à celui qui devait remplacer, qu'il puisse avoir ce statut-là et de sénateur à vie. C'est ce que nous attendons de lui.
Merci beaucoup.
Aux arguments qui sont tenus par les membres de la CENI et les experts, ces arguments ne convainquent personne, mais qui gèrent. Prenons, on dit que le fichier de 2011 est corrompu. Il est corrompu par qui? Et pourquoi? Qui avait corrompu ce fichier-là? Ce fichier-là a servi en 2006, en 2011. Aujourd'hui, il est devenu corrompu. Et qui l'a corrompu? Et pour quel intérêt? Bon, l'ancien fichier de 2011, quand on dit 450 000 doublons, c'est-à-dire, de qu'est-ce qu'on appelle doublon? Puisque nous parlons un peu de français très dur vis-à-vis de la
France. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bintou. C'est par ici qu'on va, dire. On va mettre un terme à cette émission, parole aux auditeurs, tout en remerciant Timothée Suchard, qui nous a appelé depuis Bruxelles, qui est intervenu dans cette émission comme chercheur en sciences politiques, et puis Chombo de Bounia. Nous remercions Maître Sonville et aussi à Mons, qui ont rejoint également le point de vue d'Arsène et Marie Cécile, qui a appelé deux On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Mais on ne peut pas se quitter sans dire merci à Erite Sidakala qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Pierre et la Mégie. Et puis, disons, Julie Pézabongoda était au standard et Jir Lugembo a eu le plaisir de coordonner et de présenter ce programme sous la supervision de Julien Ndiamouli. A très bientôt.